Salut à tous, au sommaire de ce Rétrovision, nous aurons Leicester Sutlery 6, Vroom, Dengin Makai 2, Zexum, Street Fighter 2, Cosmic Chasm, Sir Fred, et nous finirons avec la démo DOS du groupe Andromeda. Bienvenue sur Rétrovision. Quatrième épisode de la troisième saison, on est toujours aussi content de vous retrouver sur Rétrovision, l'émission 100% rétro gaming avec une programmation merveilleuse. Et comme il est de coutume, on débute cette émission avec un point and click intitulé Leicester Sutlery 6, la version sous-titrée de Shape Up or Sleep Out, tu t'accroches ou tu décroches. Larry Laffer est incontestablement le dragueur le plus célèbre et le plus drôle de toute l'histoire du jeu vidéo. Ce personnage créé par Al Lowe en est ici à sa sixième aventure où il passe un séjour ensoleillé dans une station balnéaire, ridiculement gagné dans un show télévisé truqué. Évidemment, l'hôtel de la Costa Lotta est parsemé de jolies femmes plantureuses et étrangement célibataires. Mais peu importe, à vous de contrôler Larry pour qu'il décroche le plus de rancards possible. C'est d'ailleurs le même principe à chaque nouvelle série.
Oh, have I died and gone to heaven?
Who are you? And which department of the spa do you represent? I don't recognize your strange uniform.
Pour arriver à vos fins, il faudra trouver comment faire craquer les demoiselles, le plus souvent en leur rendant un énorme service, comme par exemple la réparation d'un appareil servant à retirer de la cellulite, trouver des batteries pour des gadgets intimes, ou plus simplement offrir aux créatrices de mode, ou plutôt un transcréateur.
I'm ready when you are.
On sent que cette fois-ci, Al Lowe s'est carrément lâché pour nous offrir des situations délirantes à hurler de rire. Ce Larry 6 est sûrement le plus déjanté de la série.
My God, Marilyn, I'm dumbfounded. That's amazing.
La version présentée ici est sur support CD-ROM PC, sortie un an après l'édition disquette en 1993.
No! Quiet, Larry, you'll wake the entire resort.
Suite au succès de ce titre, Sierra eut la bonne idée de l'améliorer grâce au support CD avec une résolution doublée pour des graphismes plus fins, une bonne son plus confortable et surtout un doublage de qualité, mais uniquement en anglais, même dans l'adaptation française qui est quand même très réussie.
Allow me to introduce myself. My name is Larry. Larry Laffer.
On peut pratiquement dire que chaque épisode des aventures de Leicester Sutlery possède sa propre critique de la société américaine. Ici, ce sont les clubs de vacances qui subissent les sarcasmes de l'auteur.
Daryl is too preoccupied to pay attention to you.
Oops.
Une grande liberté d'action, des musiques sympathiques et une bonne dose d'humour sans tomber dans le burlesque, ce sixième titre de la saga des Larry est toujours aussi réussi par rapport à tous ses prédécesseurs.
Wait, there it is. Oh, silly me.
Ah, shark! No!
after a full night of sparking a little.
Voici la disquette dont pratiquement tous les possesseurs de micro-ordinateurs se souviennent sûrement. Vroom, simulation de Formule 1 par excellence, édité par Landcore en 1991. Avant de commencer, plusieurs modes de jeu sont proposés. Le premier, appelé Arcade, propose une conduite décontractée où l'objectif est de doubler les autres pilotes pour accéder au prochain Grand Prix tout en essayant d'avoir le meilleur score. Le second mode est plus axé sur la compétition, à la difficulté plus élevée où l'objectif est d'être le plus haut classé au championnat du monde. Chaque Grand Prix est précédé d'un tour de qualification qui détermine la position sur la grille de départ. Comme dans toute bonne simulation de Formule 1, il faudra gérer plusieurs paramètres comme l'usure des pneus, du moteur, la consommation de carburant qui peuvent nécessiter des arrêts au stand. Le point fort de Vroom, c'est indéniablement au niveau du gameplay, qui, à l'époque bien sûr, offrait une grande précision dans la conduite, ainsi qu'une sensation de vitesse rarement égalée sur micro-ordinateur. A noter aussi qu'il est possible de jouer à la souris et qu'un data disc est sorti peu de temps après afin d'enrichir les 6 circuits de la version originale. Vous l'aurez compris, Vroom est un classique qui a reçu moult récompenses dans sa catégorie, comme le Tilt d'or Canal+, 1991 de la meilleure simulation sportive, et le 4 d'or Fnac Génération 4 du meilleur jeu de course, rien que ça. Dans la famille des beat'em up de Bonpresto, je voudrais Guardians d'Engine Mackay 2, sorti en 1995 dans tous les bons game centers du Japon. Ce jeu est la suite de Dengin Makai, premier du nom, qui fut adapté en 1994 sur Super Famicom sous le nom de Ghost Chaser Densei. ...1995 était une année assez rude pour les jeux de baston à l'ancienne, avec un genre difficilement renouvelable, mais ce n'était pas sans compter avec Banpresto qui, une fois de plus, nous offre un excellent beat'em up, sans doute leur meilleure réalisation. Dengin Makai 2 réunit tous les ingrédients pour un jeu réussi, graphisme soigné, bande-son accrocheuse et dynamique, et surtout, un gameplay poussé dans ses derniers retranchements pour ce genre de jeu. Tout d'abord, vous devez choisir entre 8 personnages jouables. Non, ce n'est pas un versus fighting. Ensuite, votre mémoire visuelle sera mise à contribution pour bien mémoriser les manipulations pour les attaques spéciales qui sont clairement expliquées lors de la sélection du héros. Ce que vous voyez à l'écran n'est pas la liste complète des super attaques, il y en a, croyez-moi, plein d'autres à découvrir. Certaines phases de jeu sont des séquences de tir à la troisième personne où vous dirigez les viseurs pour shooter vos ennemis. Et comme si cela ne suffisait pas, plusieurs directions vous seront proposées au cours de votre périple. Autant dire que cela augmente encore plus le plaisir à vouloir reterminer une partie. Avec un gameplay extrêmement riche, des coups spéciaux à découvrir soi-même, un chemin différent entre chaque partie et une bonne jouabilité, Dengin Makai 2 est une référence dans la famille des beat'em up, même s'il demeure malheureusement très méconnu du grand public. On se regarde un petit extrait d'une partie à deux joueurs avec l'affrontement contre le boss final. Zexon de Sega, sorti en 1982 sur ColecoVision, est un shoot'em up qui bouleversa ce genre par sa réalisation technique lui permettant de se différencier des grands hits de l'époque. Alors que tous les autres shooters étaient en deux dimensions, Zexon se paye le luxe d'avoir une vue en 3D isométrique dotée d'un scrolling des plus fluides. À l'écran s'affichent deux indicateurs qu'il sera important de surveiller. Une jauge de carburant en bas à droite qui descendra de plus en plus vite en fonction de la difficulté des niveaux et un altimètre bien pratique pour ajuster la position du vaisseau face aux tirs ennemis et aux obstacles. Comme dans toutes les cartouches ColecoVision, vous pouvez choisir le niveau de difficulté avant de commencer une partie, où de nombreux paramètres seront reconsidérés comme par exemple la vitesse, le niveau d'essence, de nouveaux ennemis ou encore des obstacles ajoutés, de quoi augmenter le plaisir pour cette conversion console brillamment réussie. Rétrovision présente No Life, la chaîne des geeks passionnés de jeux vidéo, de la culture japonaise, de musique indé et de tout plein d'autres choses. Diffusé uniquement sur ADSL depuis juin 2007, No Life est maintenant disponible sur Internet via un abonnement où plusieurs formules sont proposées. Par exemple, pour la modique somme de 5€ par mois, vous avez accès à plus de 1800 émissions ainsi qu'à la possibilité de regarder les programmes en direct. Il y a aussi d'autres formules suivant vos moyens ou vos envies. Si vous aimez Rétrovision, alors vous adorerez les émissions comme Super Play, Retro and Magic, Hall of Shame, 101% chez Marcus ou les soirées thématiques consacrées par exemple à Mega Man ou Monkey Island. Actuellement, No Life est en difficulté financière et seul un afflux suffisant de nouveaux abonnés, dont Rétrovision fait partie, permettra à celle-ci de continuer. Alors si vous voulez ajouter une super bonne chaîne de télé réalisée par des passionnés et contribuer en même temps à une bonne cause pour sauver No Life, abonnez-vous sans plus attendre, vous ne le regretterez pas. Il y a des titres qui changent à jamais l'univers des jeux vidéo en le tirant vers le haut. Street Fighter 2 en fait incontestablement partie. Sorti au début des années 90, ce jeu révolutionna le genre de la baston en un contre un en proposant une galerie de 8 personnages sélectionnables plus 4 boss ayant tous un style de combat différent. Jamais un jeu de ce genre n'avait montré auparavant des combattants aussi détaillés tout en ayant une animation d'une fluidité irréprochable. Chaque perso possède son thème musical et ils ont tous leur attaque spécifique. Les attaques spéciales sont toutes accompagnées par des voix digitalisées et certaines d'entre elles sont passées dans le langage courant des gamers comme le Hadoken, le Shoryuken ou le Tiger Uppercut. Dans la version américaine, et donc européenne du jeu, 3 des 4 boss ont changé leur prénom. L'espagnol Balrog devient Vega, le boxeur américain Mike Bison, clin d'œil de Capcom à Mike Tyson, devient Balrog, sans doute pour des problèmes de droit à l'image, et enfin le boss ultime Vega devient M. Bison, le M de Mike devenant le M de Mister. La licence Street Fighter reste à ce jour pour de nombreux gamers LA référence de jeu de baston et le succès de Street Fighter 4 sur console Next Gen est là pour le confirmer. Le succès planétaire du jeu va faire tourner la tête à Capcom, mais de nombreuses mises à jour, plus que des suites, vont suivre, comme Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 2 Prime, Street Fighter 2 Prime Champion Edition, Street Fighter 2 Prime Hyper Fighting, Super Street Fighter 2 The New Challenger, Super Street Fighter 2 The Tournament Battle, Super Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter Alpha, Street Fighter Alpha 2, Street Fighter 02 Alpha, Street Fighter 3 New Generation, Street Fighter Alpha 3. Au bout d'un certain temps, ils durent arrêter les titres à rallonge, faute de place sur les écrans. Premier jeu vectoriel à être présenté dans Rétrovision, Cosmic Chasm, le gouffre cosmique, est l'adaptation sur arcade d'un jeu préalablement sorti sur la console de salon Vectress, ce qui peut paraître surprenant car le plus souvent c'est plutôt l'inverse. Vous guidez votre vaisseau à l'intérieur d'une forteresse spatiale en traversant différentes pièces pour atteindre le générateur central. Une fois arrivé à celui-ci, il faudra s'empresser de le détruire et faire le retour en sens inverse le plus vite possible avant que la base ne s'auto-détruise. A noter que chaque pièce possède une section centrale, grandissant petit à petit, risquant de vous prendre au piège si vous n'êtes pas assez rapide. Il est possible de prendre différents chemins. Une carte est affichée tout en haut de l'écran permettant de se situer en un coup d'œil. Cosmic Chasm laissa son empreinte dans la série des jeux vectoriels, surtout aux États-Unis, que ce soit sur console Vectress ou sur arcade. Nouvelle sélection flipper avec The Phantom of the Opera, sorti en 1987 par Data East, est une table basée sur le roman de Gaston Leroux qui est inspiré de faits réels qui se sont produits à l'Opéra Garnier dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il n'y a pas énormément de choses à faire sur l'aire de jeu. Les amateurs et joueurs intermédiaires y trouveront un bon moyen de s'entraîner en visant les nombreuses cibles. Magic Mirror. Les deux principales sources de points sont les multiballs et la rampe Million. Baby Pac-Man de Bally Midway est un concept hybride entre une borne d'arcade et une table de flipper. Vous débutez dans le mode vidéo qui ressemble au labyrinthe des séries Pac-Man, sauf que les Pac-Gommes sont absentes au début du jeu. Et les couloirs du bas commutent la partie en mode flipper, vous permettant de marquer des points et surtout d'obtenir les fameuses Pac-Gommes. Cette borne est réputée très difficile. Les fantômes qui vous pourchassent sont tous agressifs et ils cassent les règles établies dans la série originale de Namco. Il y a deux autres projets du même genre que Baby Pac-Man, à savoir Caveman et Granny and the Gator. Sega nous propose un petit voyage dans l'espace avec Lost in Space, perdu dans l'espace, distribué en 1998. Cette excellente table est une adaptation de la série télé du même nom, au milieu des années 60, mais un film fut aussi réalisé par Stephen Hopkins en 1998. Ici, l'accent est mis sur les multiballs, et il y a trois façons différentes de les obtenir. La multiball Robot, Fighter et Raid. Il y a aussi un disque magnétique tournant à grande vitesse afin de simuler un champ gravitationnel. Beaucoup d'objectifs seront à accomplir lors des parties dans le fameux Mystery Scoop. Ha ha ha! Sir Fred sur Amiga, sorti en 1989, est un pur jeu d'action comme on en voyait beaucoup à l'époque, où vous dirigez un brave et noble chevalier, victime du sortilège invoqué par Ultimor, un nain très méchant et surtout hyper jaloux. Maintenant que Fred se retrouve à peine plus haut que 3 pommes, il devra combattre valeureusement pour retrouver sa taille normale, mais surtout encaisser toutes les moqueries que les ennemis se feront un plaisir de lui balancer, surtout venant des nains qui ont la réputation d'avoir le sens de l'humour. Le gameplay suit un scrolling multidirectionnel où il faudra maîtriser l'utilisation de l'épée et des dagues pour se débarrasser des ennemis qui peuplent ces lieux magnifiques. Les déplacements se font sur 3 plans différents et il est parfois difficile de deviner sur quel plan se trouve tel ou tel ennemi. On a souvent l'impression de tirer dans le vide lors des premières parties. À vous de bien évaluer la perspective, même si on est en 2D, pour bien atteindre vos cibles, surtout celles qui se promènent dans les airs. Pour vous aider un petit peu, des potions magiques aux effets curatifs seront à récupérer tout au long de l'aventure, sans oublier les clés indispensables pour finir les niveaux. Peut-être aurez-vous remarqué la ressemblance entre les personnages de ce jeu, je parle surtout des nains avec leur chapeau pointu de couleur rouge, et le dessin animé intitulé Le Monde de David le Gnome, et sa suite La Sagesse des Gnomes, même si le graphiste en question, Jean-François Toroella, nous raconte qu'il s'est plutôt inspiré de la tendance des nains de jardin qu'il y avait à l'époque. Même si Fred est un jeu attachant avec ses décors chaleureux et son ambiance moyenâgeuse des plus réussies, il ne séduira que les nostalgiques ou les rétro-gamers, rétro-gameuses qui y ont déjà joué lors de sa sortie. Les déplacements du personnage sont malheureusement trop mous, la précision laisse à désirer et la durée d'une partie ne dépasse pas 20 minutes sans la perte de vie. C'est déjà la fin de ce 4e épisode, on se retrouve dans quelques semaines, promis, avec un hors-série qui sera dédié à l'Atari ST, séquence émotion en perspective. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt pour de nouveaux voyages pixelisés. Thank you.